Nous retrouvons à présent l'émission Parcours présentée par Virginia Crespo.
Bonjour, votre émission Parcours a le plaisir de recevoir aujourd'hui un éminent professeur en médecine, cancérologue de réputation internationale, Lucien Israël. Lucien Israël, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez été élu en 1996 dans la section morale et sociologie. Puis vous avez été transféré en 1999 dans la section philosophie. Dites-moi, est-ce que ça arrive souvent, ce genre de transfert ?
Non, mais ça ne correspondait pas à ma demande ni à ma formation, mais à des besoins d'harmonisation entre les différentes commissions. La décision fut prise par le perpétuel à l'époque.
Dans quelle section vous sentez-vous le plus en harmonie ?
Oh. Écoutez, philosophie, je m'instruis. Sociologie, ça a un peu à voir avec la médecine, mais bien. Peut-être que la médecine a aussi à voir avec la philosophie.
Oui, alors justement, cela induit ma question suivante. Expliquez-nous pourquoi certains scientifiques tels que vous sont élus à l'Académie des sciences morales et politiques au lieu de l'Académie des sciences. Comment est-ce que cela fonctionne ?
Alors d'abord, la médecine n'est pas une science, n'est-ce pas ? C'est considéré comme un art aujourd'hui, et lorsqu'elle aura beaucoup progressé, elle deviendra une technique, mais non pas une science. Donc, étant donné que mon métier, c'était de soigner des maladies, et non pas de chercher au laboratoire à répondre à des questions de biologie, je n'avais rien à faire à l'Académie des sciences. Et je n'avais pas envisagé d'ailleurs de postuler pour l'Académie des sciences morales et politiques, mais c'est Pierre Chaunu qui un jour m'a demandé de me présenter. J'étais inquiet, mais je n'ai pas osé dire non.
Vous avez reçu le prix d'Ahan Bouvray de l'Académie des sciences,
oui,
en 1974.
Il y a longtemps, oui.
Vous êtes né à Paris, Lucien Israël, en 1926. Parlez-nous de cette petite enfance.
Eh bien, je suis né à Montmartre. Et j'ai pas mal de souvenirs de cette petite enfance, en particulier de l'école maternelle, car après mes parents ont habité dans le 10e arrondissement et j'ai été à l'école maternelle rue de Chabrol dans le 10e arrondissement. À l'époque, on y apprenait à lire, n'est-ce pas ? Et il n'y avait pas un enfant qui sortait de l'école maternelle sans savoir lire.
La globale ou la semi-globale ne sévissait pas
absolument
encore.
Absolument pas, c'était une méthode analytique et syllabique, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je me rappelle que nous chantions B.A.B.A., etc., de même que nous chantions les tables de multiplication. De sorte qu'il n'y avait pas d'illettrisme à l'époque, alors qu'aujourd'hui, la France est en Occident la 13e nation du point de vue des possibilités de lecture à l'entrée en 6e. On aura peut-être l'occasion d'en parler.
Est-ce qu'on pourrait faire marche arrière par rapport aux nouvelles techniques utilisées?
Écoutez, il le faudrait absolument. La méthode syllabique a fait ses preuves depuis 2 millénaires, et même 2 millénaires et demi. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi on a jugé utile d'en changer. D'ailleurs, les résultats ne se sont pas fait attendre, puisqu'il y a des gens qui ne lisent qu'avec une grande difficulté. Et si on lit mal, eh bien, on a donc un vocabulaire restreint. Si on a un vocabulaire restreint, on ne communique pas bien ni avec soi-même ni avec les autres. Et puis, bien entendu, on n'a pas envie de lire, donc on ne se cultive pas. Et on vit avec un potentiel qui n'est pas celui d'Homo sapiens sapiens. Donc c'est un véritable drame. Ça fait partie de mes combats ainsi que de ceux de quelques académiciens, mes amis, justement d'essayer d'obtenir le retour à la méthode globale. Mais jusqu'à présent, nous avons essayé sans succès depuis quelques années d'être reçus par un ministre de l'Éducation. Il y avait toujours des membres du cabinet qui s'interposaient.
Donc vous avez un espoir ?
Ah, j'ai un espoir, oui, enfin bien sûr, on n'abandonne pas l'espoir, mais il faut se dépêcher, parce que c'est la formation des cerveaux des enfants et donc des futurs adultes qui en dépend.
Pourquoi ne pas lancer une espèce de grande pétition à travers Internet ?
Ah, à travers Internet, peut-être. Mais enfin, des pétitions ont été lancées. Il y a des associations qui existent. Mais puisque vous m'interrogez là-dessus, je vous dirais que l'Académie des sciences morales et politiques, lorsque avaient lieu les réunions de la commission Tello, a demandé, nous étions trois que l'Académie avait désigné pour y participer et dire ce que nous pensions, et il nous fut répondu qu'il regrettait beaucoup, mais que la liste des personnes autorisées à poser des questions était close.
La résistance et le combat doivent continuer, Lucien Israël.
Exactement, oui.
Vous aviez 13 ans en 39-40. Comment vous et votre famille avez-vous vécu cette période d'avant-guerre et de guerre ?
Oh, la période d'avant-guerre, il n'y a eu aucun problème. La période de guerre, eh bien, lors de l'exode, nous sommes descendus dans le Midi, que nous étions d'abord arrêtés à Vichy, où ma mère avait une amie, car elle était couturière, et elle avait une ancienne amie couturière qui y habitait. Et puis, il a fallu descendre plus bas. Et nous sommes descendus en vélo, mon père et moi. Et dans cette grande cohue, et nous nous sommes arrêtés à Brive-la-Gaillarde parce que mon père ne pouvait plus pédaler. Et donc c'est à Brive-la-Gaillarde que j'ai repris mes études. J'avais été au lycée Rollin à Paris, qui est devenu le lycée Jacques de Cour, et je suis allé au collège de Brive. J'y ai fait une partie. J'y ai passé mon premier bac. Je jouais dans l'équipe de football junior de cette ville. Et en novembre 42, les Allemands ont envahi la zone sud. Alors, nous sommes partis à Megève, parce que Megève était contrôle italien et non pas allemand. Et donc, il n'y avait pas de risque pour des Israélites de se faire déporter. Mais en septembre 43, les Allemands ont envahi la zone italienne. Et à ce moment-là, il m'est arrivé deux choses. D'une part, je suis revenu furtivement à Brive, et un camarade de collège m'a donné sa carte d'alimentation, avec laquelle je suis allé me faire faire dans le village de Corrèze où il était né une carte d'identité à son nom. Et puis, ayant cette carte d'identité, bon, je me suis baladé un petit peu, et un jour quelqu'un m'a dit « Est-ce que tu veux aller à Paris et te faire embaucher dans telle entreprise ?» Parce que cette entreprise place des gens à la gare du Nord, et nous voudrions avoir quelqu'un qui nous renseigne sur les allées et venues des trains allemands, sur les numéros des régiments, etc. » Donc, j'ai accepté, et je suis arrivé à Paris en octobre ou novembre 43, et j'ai fait ce travail qu'on m'avait demandé de faire, et à la Libération, eh bien, avec les gens que je connaissais, nous nous sommes retrouvés à construire des barricades, et que nous avons défendues, et heureusement, nous avons triomphé. Mais si je peux me permettre de raconter une petite histoire, il m'est arrivé avant la Libération quelque chose d'extraordinaire. Je rentrais chez moi par le métro le soir, j'avais une petite chambre dans le 14e arrondissement, et j'entends dans ce métro qui était bondé, il devait être 18h30 ou 19h, une voix qui crie « Israël !» Alors, je ne me retourne pas, mais elle se fait de plus en plus insistante, elle de l'autre bout du wagon, « Israël, Israël !» Alors les gens me regardaient, je finis par me retourner, et stupeur, je vois un milicien avec sa mitraillette en bandoulière, son béret, mais qui ouvre les bras et qui crie « Comment vas-tu ?» Et c'était un de mes anciens condisciples de la classe de première à Brive. Et il ne savait pas que j'aurais dû porter une étoile jaune. Donc il franchit cette foule et puis il vient me serrer la main. Alors je lui dis « Écoute, descendons. » Bien, Alors on descend à une station, il commence à me raconter qu'il venait du Vercors et que la résistance c'était rien du tout, etc. Et puis on allait passer probablement à des questions plus précises, mais à ce moment-là, un homme en uniforme de l'organisation Todd, avec sa croix gammée en bandoulière, s'arrête devant nous, lui ouvre les bras et lui dit avec un accent allemand « Milice française » et lui content lui dit « Ya » et il commence à bavarder, un métro arrive et j'entre et je me sauve. Mais enfin, c'était une drôle d'histoire.
Manifestement, les amis d'école n'occupaient pas le même côté.
Bah non, mais ça aurait pu tourner mal cette histoire-là. Enfin voilà, et puis bon, une deuxième anecdote aussi. C'était avenue des Gobelins, on était le moment de la libération, on m'avait demandé de sortir d'une petite rue et d'aller sur l'avenue des Gobelins pour voir où était le char allemand qui tirait. Et donc j'y vais en bondissant de quelques pas et j'ai vu la fumée sortir de deux fusils. De deux Allemands qui ont tiré sur moi, ils m'ont raté, je suis donc revenu en arrière et mes copains étaient blancs. Mais bon, et puis après nous avons défendu la barricade, et voilà. Ça c'est les années de jeunesse.
Alors aujourd'hui, après tous ces événements vécus, ce chemin parcouru, est-ce que vous partagez la pensée de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme ?
Non, pas forcément. Il peut l'être, c'est évident, mais il peut être aussi l'inverse, le compagnon et l'aide, donc il y a les deux.
Nous marquons, professeur, une première pause musicale en écoutant un extrait de la symphonie numéro 3, opus 56, l'Écossaise en la mineur, de Félix Mendelssohn Bartholdy. Votre émission Parcours sur Canal Académie, la première web radio académique francophone au monde, reçoit l'académicien Lucien Israël de l'Académie des sciences morales et politiques, cancérologue de réputation internationale, son combat pour transformer le défaitisme devant le cancer et faire triompher la volonté de vaincre, l'ont fait connaître du grand public. Son livre « Le cancer aujourd'hui », par exemple, a rencontré un large succès, a été traduit en plusieurs langues. Justement, quelle a été votre réaction, Lucien Israël, devant cet accueil du public ?
Écoutez, j'étais content parce que il y avait dans ce livre des raisons d'espérer et de se battre. Je pense que ceux qui l'ont acheté, ou bien étaient atteints de cancer, ou bien avaient quelqu'un dans leur famille qui l'était. J'espère qu'ils ont pu puiser dans ce livre à la fois des raisons de se battre et davantage d'espérer. Et puis aussi qu'ils ont trouvé à poser des questions à ceux qui s'en occupaient de façon à intensifier les traitements parce qu'on n'en fait jamais assez dans cette situation.
Le sous-titre que vous avez donné à un autre de vos ouvrages, La décision médicale, un livre paru chez Kalman Levy, est « Essai sur l'art de la médecine ». Pour vous, vous nous l'avez laissé entrevoir tout à l'heure, la médecine est donc un art autant qu'une science, et c'est en cela que se situe peut-être votre différence par rapport à beaucoup de vos collègues.
Écoutez, non, je crois que les médecins sont en général d'accord. Moi, j'ai appris quand j'étais étudiant que la médecine était un art et j'ai eu des témoignages de cet art parce que je me rappelle, lors de mon internat, des exploits diagnostiques extraordinaires qu'avaient fait plusieurs de mes maîtres alors qu'il n'y avait pas, par exemple, les machines qui aujourd'hui permettent de faire un diagnostic très fin dans une situation difficile. Il n'avait que ce qu'on appelait la clinique. Eh bien, il y avait de très grands artistes de la clinique qui nous impressionnaient par leur savoir et leur réussite et qui nous ont communiqué à toute une génération l'envie d'aller au-delà. Donc, à l'époque, c'était tout à fait un art. Il n'y avait pas de, par exemple en cancérologie, il n'y avait pas le moindre fait génétique. On ne connaissait pas. D'autre part, il n'y avait pas les machines qui permettent aujourd'hui les diagnostics. Mais alors il y avait des gens qui étaient meilleurs que d'autres dans cet art et qui donc avaient à la fois de meilleurs diagnostics plus fréquents et de meilleurs résultats thérapeutiques parce qu'on commençait les traitements de l'époque qui étaient minces. Mais plus tôt. La médecine, ce qu'elle va devenir, ça n'est pas une science, elle va devenir une technique. D'après ce que nous pouvons entrevoir à partir des développements d'aujourd'hui, on devine que dans un petit nombre de décennies, les patients passeront derrière une machine qui donnera un diagnostic et derrière la machine d'à côté qui donnera un traitement. À partir d'une analyse génétique et d'autres analyses biologiques. Et donc, un jour, on saura, si vous voulez, tout ce qui reste à savoir pour faire un diagnostic et pour établir la meilleure des thérapeutiques. Et j'en profite pour dire que à cette époque, je voudrais bien la connaître, mais je ne crois pas que je vivrai jusque-là, on pourra dire à quelqu'un « ça n'est pas grave, c'est un cancer ».
Nous l'espérons tous. Oui. Vous nous expliquez aussi que jusqu'à la fin du 19e siècle, ce n'était pas la guérison que l'on demandait aux médecins implicitement, mais un pronostic. Est-ce que la santé allait revenir et quand? Je vous lis. Et on demandait aux médecins de nous soulager. Seul le chirurgien, écrivez-vous, était un homme d'action. Nous sommes ensuite passés à l'ère du diagnostic, comme vous nous l'expliquiez, mais ajoutez-vous, les progrès considérables du diagnostic biologique et de la visualisation des organes internes ont réduit les marges d'erreur et de ce fait, la part de l'art dont vous nous parliez a diminué. Serait-ce à dire que l'artiste qu'on se plaisait à voir en tout médecin a vu le champ de ses talents se rétrécir, s'évanouir au profit de ce que vous appelez les techniques froides?
Mais absolument. Il en est exactement ainsi. Autrefois, il y avait un petit nombre de médecins qui parvenaient à un diagnostic précis dans une situation délicate. Aujourd'hui, ce serait considéré comme une faute par tout médecin de ne pas parvenir à ce diagnostic. Donc les choses ont largement varié depuis.
Alors, justement, pour définir cet art, vous nous parlez de flair, d'inspiration, d'intuition, exprimant par là que le champ des possibles peut être couvert parfois autrement que par le moyen d'une exploration systématique et consciente, écrivez-vous.
C'est ce qui arrivait à des... Il y avait des médecins qui étaient des grands artistes dans leur domaine, n'est-ce pas ? Je n'entrerai pas dans les détails, mais ils me sont restés familiers. J'ai vu des exploits diagnostiques par mes maîtres lorsque j'étais interne à la fin des années 50.
Alors, avec une certaine amertume, vous nous dites que l'art de la médecine appartient au passé. Nous enseignons aujourd'hui à nos étudiants à ne rien laisser au hasard, à se comporter en tâcherons consciencieux, à obtenir les preuves qui permettent de passer à l'étape suivante. Alors, l'art de la médecine.
Ah ben, non, mais ça ne me fâche pas. Je suis content qu'il y ait eu tous ces progrès diagnostiques et thérapeutiques et que justement le diagnostic et le traitement ne soient pas, ne dépendent pas des qualités artistique du médecin auquel on s'adresse.
Oui, mais vous posez la question, comment recruter dès lors ceux qui portent en eux cet art ? Vous exprimez le problème d'aujourd'hui que nos sociétés doivent résoudre si la médecine se voit un jour reconnaître son statut d'activité très noble, très haute et strictement essentielle.
Oui, mais ça ne se situe pas et ça ne se situera pas dans le domaine de l'art, n'est-ce pas ? Ça sera une technique difficile, mais une technique.
Vous nous dites, le médecin est passé de la contemplation botanique à l'activité de commando en ce qui concerne le domaine de la thérapeutique. Expliquez-nous.
Ah oui, les choses ont déjà changé. La thérapeutique a fait des progrès considérables, mais le diagnostic aussi. On a identifié des troubles qu'on ne savait même pas nommer autrefois, et on a identifié leurs raisons biologiques et la façon de s'y opposer par des thérapeutiques. Donc il y a eu déjà un progrès. À l'époque, lorsque j'écrivais ça, on était encore dans le domaine de l'art, mais on y est de moins en moins. Et avec les progrès qui sont faits dans les laboratoires de biologie du monde entier, on commence à entrevoir le moment où ce ne sera qu'une technique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'hésitation diagnostique ni de choix entre plusieurs thérapeutiques possibles. On saura ce que c'est et on saura ce qu'il faut faire. Dans une génération, c'est réglé, ça.
On n'aura pas besoin de l'intervention du cerveau humain par rapport à ce pouvoir.
Non, mais il y aura des gens qui choisiront ce métier plutôt que d'autres, mais ils auront dans leur apprentissage toutes les armes nécessaires pour ne pas faillir. C'est pour ça que je dis que ça va se transformer d'art en technique un jour. Et on commence à en avoir les prémices même.
Et vous auriez souhaité exercer votre métier en tant que technicien ?
Non, moi, écoutez, j'ai de très bons souvenirs de mon métier. Je vous signale que je suis à la retraite. Un jour, l'administration a sorti ma carte d'identité et m'a dit « Mais monsieur, il est temps de partir. » Donc, pendant toutes mes années d'exercice, j'ai adoré ce métier, ce qu'il impliquait de punch, d'entêtement, de dévouement, aussi de compréhension du non-dit de la part d'un certain nombre de patients, parce que c'était bon, j'avais choisi de m'occuper de maladies graves. Mais donc, non, ça a été pour moi une période extraordinaire. D'ailleurs, j'ai pas vu le temps passer. Je travaillais des heures et des heures et des heures. Il m'est arrivé de passer des nuits à l'hôpital, mais je m'en apercevais même pas, quoi. Bon, donc je suis content de tout ce qui s'est passé, mais je me rends parfaitement compte maintenant, avec les progrès que je suis, sans y être directement impliqué, mais en lisant et en rencontrant mes confrères, je me rends compte que c'est en train de changer, que ça doit changer complètement. Un jour, il n'y aura plus de problème. Nous sommes faits pour vivre jusqu'à 120 ans. Je ne rentrerai pas dans les raisons biologiques, mais elles sont connues. Et bon, donc la nature nous a fait mortels, n'est-ce pas ? À 120 ans, c'est terminé, on n'ira pas plus loin. On connaît la nature du déficit et quand on le corrige dans une cellule, elle devient cancéreuse. Donc, au-delà de 120 ans, c'est réglé. Mais un jour, tous les homo sapiens sapiens atteindront 120 ans, n'est-ce pas ? Alors, on s'use. dans toutes les populations du monde et même dans les populations animales des eaux, c'est-à-dire des animaux protégés de la famine, des infections, etc., il y a un rapport précis entre la longévité moyenne et l'âge de la reproduction. Ce rapport montre que nous commençons à nous user quand nos enfants atteignent l'âge de se reproduire. Ce qui veut dire que la nature s'intéresse davantage aux lignées qu'aux individus, n'est-ce pas ? Et bon, mais donc l'usure commence tôt. Mais on va pouvoir contrecarrer l'usure et puis s'éteindre d'une courte maladie vers 120 ans. C'est ce qui se passera dans 3 ou 4 générations. Ça posera évidemment des problèmes aux politiques, pour l'organisation des sociétés, mais enfin, bon, je ne rentrerai pas dans ce détail.
Oui, par rapport à cette organisation de la société que vous évoquez, la mise à la retraite par rapport à ces aventures vécues.
Ah bah écoutez, moi je ne m'en suis pas remis. Je suis bénévole dans un dispensaire maintenant, donc j'y vais une fois par semaine, je vois encore des patients parce que presque tous me disent qu'ils viennent me voir parce que un parent ou un grand-parent que j'ai soigné leur a dit qu'il fallait me trouver. Il y a d'ailleurs même des étrangers. Mais je ne peux plus dire à un patient, écoutez, entrez dans le service, je vais vous prendre en charge. C'est simplement une consultation. Je m'en suis jamais remis de cette mise à la retraite.
Et des deux côtés, niveau patient, niveau même, c'est...
Bah, mes patients, non, mais enfin, bon, ils ont vécu, ils vivent, hein, tant mieux. Mais j'avais créé un laboratoire qui fonctionnait en même temps que mon service, et bon, j'étais... tant qu'on ne m'avait pas dit ça, j'avais même pas envisagé, je ne savais pas à quel âge ça se passerait, ce qui se passerait, etc. Bon. Et alors, naturellement, bon, puisque nous parlons de ça, on m'a demandé de venir aux États-Unis, mais pour des raisons familiales, je ne pouvais pas y aller, mais l'ami qui m'a téléphoné de Chicago m'avait dit, tu viens prendre le service de cancérologie du Presbyterian, et tous les matériels qui coûtent moins de 100 000 $, tu signes tout seul.
Bon, mais et oui, une ouverture d'esprit différente
Des
pouvoirs publics, plus à l'écoute.
On ne peut pas mettre un médecin à la retraite pour des raisons d'âge, parce qu'on se fait condamner. Mais s'il a moins de malades ou moins d'étudiants, on le met dehors quel que soit son âge.
Toujours un résultat. Au moins, il y a tout de même...
Et j'ai des collègues avec lesquels j'ai travaillé, puisque j'appartenais à des groupes américains et je suis toujours en rapport avec eux, qui ont mon âge et qui sont toujours en fonction.
Vous parliez de la famille, justement. C'est important pour vous, ce concept de famille, l'homme qui a des racines, ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de partout, de nulle part, et un déraciné, un nomade ?
Ah non, je pense que la famille, c'est absolument capital. C'est la famille qui construit le cerveau des petits-enfants, et donc qui donne les valeurs et les rites. Les rites sont très différents d'une société à l'autre, même dans certains cas d'une région à l'autre dans un même pays. Mais c'est ce qui construit les comportements. Par conséquent, la famille est absolument indispensable. Elle ne disparaîtra jamais. Ça, c'est pas possible.
Nous avons choisi pour cette pause musicale un extrait de la suite numéro 2 pour violoncelle seul de Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy, la première web radio académique francophone dans le monde, et de son émission Parcours, qui a le plaisir de s'entretenir aujourd'hui pour vous avec le professeur Lucien Israël, cancérologue de réputation internationale, académicien de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur de plusieurs ouvrages qui ont connu un large succès. Le cancer aujourd'hui, la vie jusqu'au bout, cerveau droit, cerveau gauche, un ouvrage passionnant sur lequel nous reviendrons dans un instant. Professeur Israël, vous terminez votre ouvrage « La décision médicale » dont l'écriture remonte déjà à quelques années par ces quelques phrases. « Notre espèce a traversé bien des vicissitudes et s'inflige bien des épreuves. Nous ne verrons pas les descendants de nos descendants, mais je puise un réconfort dans l'idée qu'existe un corps d'individu qui se donne pour tâche d'apaiser et s'il se peut de guérir quiconque le souhaite sans ménager sa peine et sans autre orgueil que celui de servir. » Voilà l'idéal qui doit être proposé à ceux qui aujourd'hui entrent dans la carrière et le devoir des praticiens de ma génération est de les former dans ce but. Je salue les médecins, en proie au doute, ceux qu'un cas difficile tient éveillés, ceux qu'une défaite momentanément terrasse et qu'une victoire réconcilie avec la vie, et je demande pour eux pardon à leurs proches. La vie d'artiste, écrivez-vous, chacun le sait, n'est pas facile. Alors, professeur Israël, vous aussi, avez-vous demandé pardon à vos proches d'avoir exercé avec passion cette vie d'artiste ?
Écoutez, non, je ne leur ai pas demandé pardon, mais ils ne m'ont jamais empêché de faire tout ce que je souhaitais faire, mais j'ai conscience maintenant, parce que c'était pas mon cas auparavant, que ça n'a pas été facile pour eux tout le temps. Parce que, surtout quand on est un médecin des maladies graves, eh bien, on ne peut pas ménager son temps. Et quand on n'est pas occupé à traiter quelqu'un, on est occupé à lire pour s'instruire, pour connaître les toutes dernières découvertes en matière de thérapeutique ou de diagnostic. Donc, ça prend une vie tout entière. Mais bon, je l'ai fait sans me poser de questions et avec le recul du temps, je l'ai fait avec délice. J'avais vraiment envie de le faire, envie de d'obtenir le maximum de résultats dans une spécialité difficile. Et donc, je n'ai rien à regretter.
Dans le désarroi, la peine, la déprime, l'interrogation, vous vous aviez tendance à vous réfugier vers quoi ? Vers qui ? La prière, la solitude, les amis, la famille ?
Écoutez, je ne me réfugiais pas. D'une part, j'en avais pas envie, mais d'autre part, j'avais pas le temps. N'est-ce pas ? Il y avait trop de choses à apprendre et trop de choses à faire. Et je crois que... Je ne sais pas quel souvenir j'ai laissé à mes collaborateurs. J'ai beaucoup pesé sur eux. Nous sommes restés en excellents termes, mais ils n'ont pas eu une tâche facile.
Quelles sont les valeurs essentielles, d'après vous, à ne pas perdre de vue si l'on veut évoluer dans le sens de l'ouverture, de l'échange, de l'épanouissement de l'être humain ?
Eh bien, écoutez, c'est pas facile parce que il faut pour cela avoir reçu un certain type d'éducation, une ouverture aux autres. Il faut avoir disposé d'une culture étendue, d'un registre lexical important. Vous savez que les Esquimaux ont 60 mots pour la neige. N'est-ce pas ? Autrement dit, il voit des choses que nous ne voyons pas. Il est capital d'avoir un registre lexical très large pour devenir conscient d'un certain nombre de choses, n'est-ce pas ? Autrement, si on ne sait pas les nommer, on ne sait pas les voir. Par conséquent, l'éducation est quelque chose d'absolument fondamental. Actuellement, c'est mal parti, n'est-ce pas ? L'éducation n'obtient pas les résultats qu'elle devrait obtenir. Et surtout, il y a un âge au-delà duquel on remonte très difficilement un handicap de lecture, par exemple.
Quel âge ?
Oh, la puberté, disons. Par conséquent, il faut qu'un enfant sache lire couramment avant la puberté et qu'il ait envie de lire et qu'il dispose des ouvrages nécessaires pour se cultiver. À partir de ce moment-là, il se connaît, il connaît autrui, il connaît toutes les possibilités, il sait que la vie est pleine d'aléas. Je pense qu'il a un caractère souple et pas bêtement offensif vis-à-vis de ses semblables.
Sur la place de l'homme, la place de l'être humain dans l'éternité, dans le cosmos, quelles pensées vous viennent à l'esprit ?
Écoutez, c'est tout à fait extraordinaire. Nous avons 1,5% de différence génétique avec le chimpanzé. 1,5%. Et dans ce 1,5%, il y a la science, toutes les sciences, il y a les arts, les émotions positives, la capacité de se projeter dans l'avenir et de le comparer au passé, le fait qu'on perçoit la personnalité d'autrui. Alors comment est-ce que ça a pu se faire ? Ça, c'est un autre problème, je n'en sais rien. La vie est apparue sur cette planète il y a 3,5 milliards d'années avec les premiers microbes qu'on appelle des archéobactéries. Alors déjà, à ce moment-là, ils étaient capables de se reproduire. Bon. Et donc, la lignée s'était déjà partie. Et ça s'est développé. Jusqu'à cette chose extraordinaire qui est que la matière est capable de se penser elle-même par l'intermédiaire du cerveau humain et de déchiffrer ses propres lois et de se donner le défi d'aller encore au-delà. Donc c'est incroyable, tout à fait extraordinaire. Ce que je crois, je ne suis pas du tout versé en astrophysique, mais enfin, il y a tellement de milliards d'étoiles dans cet univers, qu'il doit y avoir encore plus de milliards de planètes. Et donc, je serais surpris que nous soyons la seule planète dans cet univers où la vie consciente est apparue. N'est-ce pas ? Maintenant, ce qui se passera quand il y aura une rencontre, c'est autre chose.
Et comment voyez-vous l'arrivée, le développement de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle ?
Bon, écoutez, actuellement, l'informatique et notamment la bioinformatique aide extraordinairement les généticiens à avancer, à comprendre des interrelations extraordinairement difficiles, parce que nous avons 35 000 gènes et chaque gène fabrique plusieurs protéines possibles qui interagissent les unes avec les autres. Actuellement, s'il n'y avait pas l'informatique, eh bien, on ne pourrait pas aller au-delà d'une certaine
connaissance.
Oui, un certain stade. Mais grâce à ça, et alors je suis pas du tout spécialiste, moi, les mathématiques, c'est pas mon problème, ni ça fait pas partie de mes connaissances, mais enfin, je me rends compte que justement, l'informatique est en train de nous faire des progrès considérables, et c'est pas vrai seulement pour les biologistes, c'est vrai aussi pour les physiciens et les astrophysiciens. Donc il y a eu là quelque chose qui est né il y a un petit nombre de décennies et qui est en train de transformer, de nous transformer, transformer nos pouvoirs en tout cas.
À quel projet travaillez-vous en ce moment? Profitez-vous de cette période pour prendre le temps de vivre ou vous intéressez-vous activement à un domaine?
Écoutez, j'ai deux combats. Le premier, le cancer, reste toujours d'actualité. Je vais dans le laboratoire de biologie d'un de mes chers amis à la faculté de médecine des Saint-Père, mais enfin, je ne peux pas mettre au point des programmes, avoir des étudiants, etc. Mais enfin, nous continuons à nous intéresser à la biologie, mais surtout, mon combat, ça consiste à répandre l'idée que... on n'en fait jamais assez avec un cancer. On a de plus en plus d'armes, eh bien il faut les utiliser presque toutes en même temps et non pas faire appel aux unes quand les premières ont échoué. Bon, donc si vous voulez, je constate que dans tout l'Occident, c'est vrai, les patients qui ont une maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire celle qui est responsable de la plus grande mortalité ici-bas avec l'âge, eh bien, ils reçoivent presque toujours le meilleur traitement possible. Ça n'est pas forcément vrai encore pour les cancers, pour toutes sortes de raisons dans le détail desquelles je n'entrerai pas, mais enfin, il y a des protocoles qui comparent tel traitement à tel autre, des habitudes qui sont enseignées. Donc, l'un de mes combats, c'est de répandre l'idée parmi mes jeunes confrères, mais aussi parmi la population des futurs malades, qu'on peut faire mieux que ce qui est aujourd'hui catalogué. Et le deuxième combat, eh bien, nous y avons déjà fait allusion, c'est la lutte contre l'illettrisme. Parce que j'ai écrit ce livre que vous avez sous les yeux,
Cerveau droit,
cerveau gauche, Cultures et civilisations. Et la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que... Je me suis posé des questions et j'ai cherché les réponses et je ne les ai pas trouvées et je suis sorti de ma spécialité pour écrire ce livre après avoir consulté quelques centaines d'ouvrages de neurologues et de neuropsychologues écrits dans les dernières décennies dans le monde entier. Et j'ai appris en faisant ce travail quelque chose que les spécialistes connaissent, à savoir que nos deux cerveaux ont deux modes d'activité et de présence au monde différents. Chez les droitiers, pour prendre l'exemple le plus nombreux, le cerveau gauche est celui de l'analyse, de la lecture et de la connaissance et de l'intellectualité. Le cerveau droit est celui des émotions, non pas tant des émotions primaires comme la peur ou la fuite que des émotions comme par exemple le sens de la beauté ou aussi de la laideur, mais aussi l'observance naturelle des rites sans avoir à y réfléchir, des conduites, etc. Laisser le haut du pavé à une dame, par exemple, n'est-ce pas bien? Eh bien, ça, c'est enregistré dans le cerveau droit. Mais alors, justement, le cerveau gauche, celui de l'analyse et de la lecture, il apprend à lire par la méthode syllabique, le B.A.B.A. qu'on enseignait de mon temps dans les écoles maternelles. Or aujourd'hui, nous sommes passés à la méthode globale où quand on interviewe les gens, ils vous disent « Ah non, c'est pas une méthode globale, c'est une méthode semi-globale ». Mais en tout cas, ça n'a rien à voir, il s'agit de deviner à partir de la forme d'un mot, enfin bref, c'est très complexe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons 20% d'illettrés. À l'entrée en sixième, si on donne un texte de 15 lignes ou de 20 lignes à résumer en 5 lignes, il y a 20% des enfants qui ne savent pas le faire. Bon, donc c'est quelque chose d'inadmissible parce que on refuse leur plein développement à des membres de notre espèce. Alors il y en a qui sont défendus par leur famille, lesquels ils sont attentifs, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas, et donc ils n'auront à tout jamais qu'un vocabulaire restreint, qu'une sémantique modeste, et donc ils ne se connaîtront pas eux-mêmes et ils ne soupçonneront pas l'existence d'une subjectivité étendue chez autrui. Par conséquent, si autrui leur déplaît, ils tapent dessus, n'est-ce pas ? Et d'autre part, alors ça, donc le cerveau gauche ne reçoit pas l'alimentation qui lui est indispensable pour se développer, mais le cerveau droit, par exemple, est lui qui est celui des émotions. On devrait enseigner, faire écouter de la grande musique dans les écoles, n'est-ce pas ? Mais maintenant, au contraire, les enfants regardent des films de grande brutalité à la télévision. Les jeux sur Internet sont épouvantables, etc. Donc le cerveau droit ne reçoit pas non plus sa nourriture. Alors les deux sont en danger. On fabrique non seulement des êtres qui ne sont pas capables d'apprécier autrui, de s'apprécier eux-mêmes et de penser, de faire des diagnostics d'erreurs, par exemple, et d'autocritiques, mais on fabrique des êtres dont les émotions sont des émotions négatives.
Professeur Israël, pour cette troisième pause musicale, vous avez choisi de nous faire écouter un extrait de l'Adagio Cantabile de la sonate en ut mineur de Beethoven, la sonate intitulée « La pathétique ». Votre émission Parcours sur Canal Académie reçoit avec grand plaisir aujourd'hui Lucien Israël, éminent professeur en médecine, cancérologue de réputation internationale, à qui nous devons notamment les ouvrages tels que « La décision médicale »,« Vivre avec un cancer »,« La vie jusqu'au bout »,« Le cancer aujourd'hui », »,« Le mythe bioéthique »,« Les dangers de l'euthanasie » ou encore « Cerveau droit »,« Cerveau gauche »,« Cultures et civilisations », ce dernier étant paru chez Plon. Alors, nous venons d'écouter un extrait de Beethoven, cher professeur, et dans votre ouvrage, justement « Cerveau droit, cerveau gauche », vous écrivez, concernant la musique, « Dans ses lettres à Bettina, Beethoven écrit « La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et que toute philosophie ». Dichotomie fascinante, écrivez-vous, pour l'explorateur de la symétrie cérébrale qui sait que la philosophie est du cerveau gauche et que la musique essentiellement du cerveau droit. Et vous citez de plus Voltaire qui accueillait Grétry avec ces mots « Vous êtes musicien et homme d'esprit, monsieur, la chose est rare ». Alors on comprend beaucoup de choses avec cette anecdote.
Absolument, oui, absolument. Mais justement, quand j'ai écrit quelque part que j'avais lu 400 ouvrages pour faire ce dernier, non, cerveau droit, cerveau gauche. Et je suis tombé sur des choses comme celle-là, n'est-ce pas ?
Alors, quelle partie de votre cerveau avez-vous utilisée ? pour écrire ce
Ah bah écoutez, les deux, parce que le sentiment du beau, ou même le sentiment du juste, n'est-ce pas, c'est le cerveau droit, parce que c'est quelque chose d'assez instantané, mais la réflexion, ça c'est le cerveau gauche.
Alors donc, il faut donc que nos deux cerveaux coopèrent.
Alors ils communiquent par un 200 000 fibres qu'on appelle le corps calleux. Et c'est un neurologue américain, Sperry, qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel pour ses travaux, qui avait découvert cette dualité, parce que à l'époque, il y a donc non pas un siècle, mais pas loin, on opérait pour prévenir des épilepsies, on sectionnait le corps calleux, ce qui fait que les deux cerveaux ne pouvaient plus échanger les informations qu'ils détenaient ou leurs sensations, etc. Et c'est parce qu'il a fait l'étude psychologique de ces personnes qui avaient été commissurotomisées qu'il a découvert les fonctions de chacun des deux cerveaux. Alors il y a quelques exemples extraordinaires, puisqu'on parlait de musique. Eh bien, Ravel lui a fait une hémiplégie droite, c'est-à-dire par lésion vasculaire du cerveau gauche. Donc le cerveau gauche analytique n'était plus en activité. Le cerveau droit lui était intact, parce que ça se croise. Alors, quand on jouait de la musique devant Ravel après qu'il ait eu cet accident, on lui demandait le nom du morceau de musique, il ne savait pas répondre, mais s'il y avait une fausse note, il tressautait.
Ah, formidable anecdote tragique. Ouais. Alors donc, pour récapituler, le cerveau gauche, c'est le cerveau de l'analyse et de la logique.
Chez les droitiers.
Chez les droitiers.
Oui.
Et c'est l'inverse alors chez les gauchers.
C'est l'inverse chez la plus grande partie des gauchers, oui.
Et alors, le cerveau droit, c'est le cerveau de l'intuition.
Oui. C'est le cerveau du coup de foudre, pour aller vite. N'est-ce pas?
C'est-à-dire?
Eh ben, le coup de foudre, on n'a pas le temps de réfléchir. On voit un être, on est séduit immédiatement. Il n'y a pas eu d'analyse de la situation. C'est une réaction primaire du cerveau droit.
C'est l'émotion?
Oui, mais une émotion tout à fait particulière, en l'occurrence, n'est-ce pas? Avec une adhésion, c'est Tristan et Iseult, c'est bon.
Voilà. Mais sans le droit, le gauche n'est rien et inversement.
Absolument. Absolument, et il faut qu'il communique justement et qu'il communique en permanence. Et donc pour cela, il faut avoir été éduqué aux deux. Il faut avoir été éduqué au langage pour le cerveau gauche, c'est-à-dire avoir une pratique de la lecture, un registre lexical étendu, une combinaison sémantique suffisante et avoir lu beaucoup. Mais il faut aussi que le cerveau droit ait été éduqué aux bonnes émotions. La belle musique, la grande peinture, les beaux paysages, de façon et aussi à la perception de la laideur pour avoir le recul nécessaire.
Lequel de vos deux cerveaux, professeur, avez-vous fait travailler intensivement pour écrire ces poésies dont vous allez nous faire une première lecture?
Ah bah la poésie, c'est le cerveau droit, n'est-ce pas? C'est le rythme, quelque part. Platon dit que la poésie, c'est une pêche miraculeuse dans l'océan des métaphores.
Super.
Donc, c'est le cerveau droit, manifestement, n'est-ce pas? Il faut après le remettre en ordre, il faut les deux. Mais enfin, l'émotion poétique, c'est le cerveau droit.
Alors justement, comment cette émotion poétique est-elle née chez vous? Qui l'a induite? Un auteur ou...
Eh ben oui, justement, ça m'a pris à 17 ans à la découverte de Mallarmé. Et ça m'a pas quitté depuis. Voilà.
Nous vous écoutons. Quel est le titre de ce poème?
Eh bien, écoutez. Alors non, mais j'ai écrit 3 livres de poèmes. Les deux premiers sont là. Il y avait Face cachée. Deuxième, L'oiseau qui retournait dans son pays. Et le troisième, ça s'appelle Figure de l'inquiétude. Mais un court poème du premier, qui s'appelle Le Pierrot étourdi. Oui. Eh bien, je vous le lis. Debout seul à midi, un poète maudit du geste congédie le rêve et la romance. D'un lointain paradis de bonheurs à crédit, son âme vous dédie sa tranquille démence. Le baron samedi siffle sa mélodie dans les sens interdits où la douleur s'engouffre. Dans tes yeux agrandis, des lueurs d'incendie bercent la maladie d'un étranger qui souffre. D'un index engourdi, un sage qui mendie sans un maravédit me désigne la lune. En robe d'organdi, une belle abandie m'entraîne en son taudis, j'en repars à la brune. Monte la rhapsodie, oublieuse tandis que le corps irradie ses anciennes violences, souvenir affadie d'un passé inédit, naïve comédie des robots du silence. Sur un cœur de dandy, un chirurgien hardi du scalpel étudie l'amour et sa dérive, et la vie s'étourdit comme une parodie, un Pierrot étourdi échoué sur la rive.
Merci.
Voilà, ça fait quelques décennies que j'ai écrit celui-là.
Il faut une grande solitude pour pouvoir écrire ? Ou ça se faisait entre deux consultations ?
Ça s'est fait aussi entre deux consultations.
C'est vrai ?
Ça s'est fait aussi en vacances.
Alors, nous allons terminer avec un poème qui s'intitule ?
Qui s'intitule « Difficile » et qui est dans un petit livre récent qui s'appelle « Figure de l'inquiétude ». Les fardeaux, les adieux, les cendres, les défaites, les défis, les pardons, les départs, les dangers, le silence et les cris, les questions, les réponses, les fièvres, les passions, l'énigme des regards, les masques, les tourments, les ruines, les attentes, un hôpital le soir, les corridors du temps, le royaume ou la mort, les gestes et les pièges, l'étrangeté des corps, le dur pouvoir des mots. Les secrets, les rançons, les lèvres, les blessures, ton ombre sur les murs, les clameurs, les déserts, le destin, le combat, les épées, les décombres, l'archet, le sablier, les tarots, le trépas, la maladie, le sang, les gouffres, les absences, la brûlure des nuits, les gares, le néant, ce qui n'est jamais dit, l'imperfection des choses, tout le monde et non toi, les douleurs et les jours. Des barques qui s'en vont sur l'océan des rêves, aux fenêtres de l'ouest un cœur trop fatigué, vers le centre des nuits des formes de passage, être décidément est difficile.
Toute une vie dans un poème.
Ben oui, c'est vrai.
Merci professeur Israël, merci.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.